Jules Renard ragote. Chapitre 4. Le pôle. Le pôle entre furieux chez Ragotte.
À l'autre maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas apporté ma soupe ce matin? Je ne savais pas si tu travaillais aujourd'hui. Tu sais quand on boit, tu ne sais pas quand on travaille. Tu ne m'avais pas dit où tu travaillerais.
Au canal, sur le port. C'est malin à deviner.
À quelle pile? Il faut toujours chercher. Les empileurs se moquent de moi. Ils rechignent à ma question. Avez-vous vu le pôle? Et je drogue de pile en pile. Mais ta soupe est prête, tu peux l'avaler. Je n'en veux plus de ta soupe.
Laisse-la, mon garçon, et je te défends de me la faire, demain et les autres jours.
Je te le défends, je te défends. Ce n'est pas la peine de t'en le répéter, j'ai compris. J'en trouverai à l'auberge.
Tu es libre, tu verras ce que ça coûte. J'ai de quoi payer, et ce sera meilleur.
Puisque tu ne mangeras plus chez moi, je ne balerai plus ta maison où tu couches.
Ferme la porte.
Elle est fermée.
Ôte la clé.
Je l'ai dans ma poche. C'est fini entre nous, mais quand tu auras besoin d'un morceau de pain, j'ai plus les moyens que toi,
dit Paul déjà dehors.
Il m'a jeté ça dans les jambes, dit Ragotte, parce que je l'avais piqué net.
Elle tourne autour de la maison de Paul et regarde par la fenêtre. Elle a vu aujourd'hui sur sa table un pain entamé, un reste de fromage et un litre vide, ce qui prouve qu'il ne prend point tous ses repas à l'auberge, comme il l'avait dit, et qu'il est embarrassé. Le Paul, qu'elle agace, ferme les volets quand il va à son travail. Elle se réjouit d'abord de ne plus avoir affaire de cuisine, même pour Philippe qui mangera souvent ce qu'il aime le mieux, du pain avec un cornichon à la croque au sel.
Ragotte et le Paul, dit Philippe, se sont tirés les oreilles, mais ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, ils se cherchent déjà.
Pense qu'il fait sa soupe lui-même, dit Ragotte.
Ne faut-il pas qu'il apprenne, répond Philippe. Oh, toi, tu es dur, mais une mère.
Je me rappelle, madame, que la veille de faire le Paul, j'allais encore laver à la rivière. Quel ingrat! On voit des enfants si bien élevés.
Il fallait, dit Philippe, élever ton Paul comme ceux de madame.
On n'est pas tout seul pour donner des conseils, réplique Ragotte.
Philippe se tait.
Il vous reviendra, dit Gloriette après la leçon.
Il sent qu'il a mal fait, madame, et il n'ose plus reparaître ici devant vous. Oh, moi, à sa place, j'aurais honte, je ne reviendrai pas.
Puisqu'on ne se connaît plus, dit Philippe, il ne faut rien prendre au jardin de Paul. C'est leur voisine, la Chalude, qui en profite. Elle ne laisse pas perdre les choux et les carottes.
Vous a-t-il dit quelque chose? Lui demande Ragotte.
Non, il ne vous parle point de moi.
Oh, non. En mal comme de juste. En rien du tout, ma pauvre Ragotte. Il se débarrasse bien de vous. Il est comme les autres enfants.
Ainsi, ce n'était pas assez de la mort du petit Joseph. Il faut que Ragotte souffre par les vivants. Le petit Joseph au cimetière, sa fille Lucienne mariée, le Paul fâché. Elle n'a plus que son principal. Elle va s'asseoir près de lui et le regarde désherber les oignons. Toute l'année de la naissance de Paul lui revient. Il y a 30 ans, jour pour jour, qu'elle le poussait au monde. La moisson était bien en avance comparée à celle d'aujourd'hui.
« Quand ils sont petits, dit-elle, avec un coup de pied d'un côté et une tape de l'autre, on les remet droit. Quand ils sont grands, il n'y a plus de prise. »
Cependant, elle lui prépare, comme d'habitude, sa chemise de la semaine. Il ne vient pas la chercher.
« Ne t'en occupe donc plus, dit Philippe. Tu ne l'as pas vu tout à l'heure sortir de sa maison avec une belle culotte blanche.
Il se croit propre dans sa fouillerie, cet individu-là, dit Ragotte mortifiée.
Elle sait par la Chalude qu'il ne prend pas la peine de faire son lit et qu'un fromage blanc lui dure une semaine. Le Paul va partir pour ses 28 jours. Viendra-t-il leur dire au revoir? Jusqu'à présent, il évite le père comme la mère. Et chaque fois qu'il rencontre Philippe, il se gare. Enfin, la veille du départ, Philippe le rattrape sur la route.
« Tu n'as besoin de rien. Pourquoi t'inquiètes-tu de ça?
Si tu n'avais pas d'argent, je t'en donnerais. J'ai de l'argent. Tu feras peut-être les manœuvres. Je ferai ce qu'on me fera faire. »
Un peu après, Ragotte, n'y tenant plus, va dans sa maison qui est ouverte.
« Comme tu pars, dit-elle, je viens voir si tes affaires sont prêtes. Je ne les ai pas regardées. « Si tu veux que je les prépare, Ce n'est pas le moment. Il n'imagine pas le plaisir qu'il pouvait me faire en me commandant quelque chose. Il m'aurait dit seulement « fais mon lit », mais rien. Comme je ne voulais pas lui montrer ma peine, j'ai tourné mon cul et je suis sorti.
Le soir, ils font une dernière tentative.
« Montes-tu là-haut ?» dit Ragotte. « Monte si tu veux, toi, » répond Philippe. « Comment faut-il que je lui tourne ça ? Offre-lui les 100 sous, mais ne le force pas. S'il les refuse, rapporte-les. »
Ragotte n'a pas la peine d'aller jusqu'au bout. Elle aperçoit une voiture à âne qui amène le Paul. C'était donc ce soir qu'il devait partir, et non demain matin. Dès que Paul a disparu, sans un regard en arrière, Ragotte n'est pas longue à remettre à Philippe la pièce de 100 sous. Il ne s'agissait peut-être que d'une course. La nuit, elle se dresse et entend un bruit de souliers qui approche.
« C'est le Paul ! C'est le Paul !»
Non, il est bien parti, comme un orphelin. Philippe la console doucement. « Es-tu sûr à présent, dit-il, que ton Paul se fout de toi ?» Elle pleure. Ses yeux ne débouffissent pas.
« Il faut pleurer les morts et les vivants, dit-elle. »
Comme si elle avait peur de ce qu'elle vient de dire, elle rectifie.
« C'est moins dur tout de même de pleurer les vivants. Un jour ou l'autre, on peut les revoir. »
La femme Merlin, dont le fils fait aussi ses 28 jours, dit malignement à Ragotte.
« Avez-vous des nouvelles du Paul ?»« Non, dit Ragotte, je n'en ai point, mais je n'en attendais pas. »«
Oh, moi, dit la femme Merlin, j'en ai des 1000. Il nous a écrit et il marque sur sa lettre qu'il nous réécrira encore. » Ragotte lave le linge qu'elle trouve dans la maison du Paul. « Tu en as de la complaisance, dit Philippe.
« Ce n'est pas à cause de Paul, c'est à cause du linge qui s'abîmerait. » La culotte était raide debout et dressait les oreilles comme le diable. Je ne pouvais pas la laisser dans un pareil état. Oh, ce sera fini, je ne toucherai plus à rien.
Mais Ragotte, lui dit Gloriette, ce paquet de linge était dans la maison.
Oui, madame,
et la clé,
je l'ai.
Il vous l'a donc rendu.
Oh non, il a fait comme c'est l'habitude chez nous. Le dernier qui sort ferme la porte à clé, met la clé sur le rebord de la fenêtre ou au coin et pousse simplement les volets. Il ne les accroche pas. On le sait, on n'a qu'à ouvrir les volets et à prendre la clé.
Pas une carte postale. Qui la préviendra s'il arrive malheur au Paul ? Va-t-elle, comme on dit, apprendre sa mort avant sa maladie ? Comment finira cette brouille ? Après ses 28 jours, le Paul se remettra-t-il à la petite table de Ragotte ? Oublieux et affamé comme s'il revenait d'une guerre lointaine. C'est possible, mais il a une tête. Les 4 semaines passées, il est de retour et ne vient pas la voir. C'était pourtant une bonne occasion. Ragotte sait que, parti enrhumé, il a fait des manœuvres enrhumées et qu'il rentre avec son rhume. Elle avait dit « Oh, je n'irai pas laver son linge des 28 jours. »
« S'il me le donne, je le laverai de bon cœur, mais s'il attend que j'aille chercher le linge... »
Et comme il ne l'apporte pas, elle va le prendre. Elle trouve le Paul au lit, la figure contre le mur.
« Tu es donc malade ?»«
Oui. »«
As-tu besoin de quelque chose ?»«
Non. »«
Si je te faisais un verre de vin chaud ?»«
Je n'en veux point. » Il ne se retourne même pas, ni bonjour, ni bonsoir. « Laissez-le, Ragotte, » dit Gloriette, indignée. « Vous finiriez par avoir tort, et vous vous faites du mal pour un mauvais gars qui ne le mérite plus. »«
Vous dites vrai, madame. S'il arrive du malheur, je n'aurai rien à me reprocher. »
Elle ne dit pas que, le Paul ne lui montrant que le dos, elle a pris le paquet de linge des 28 jours. Elle le lave et l'écarte sur la haie du jardin de Paul. Il le ramassera s'il veut. Le Paul est malade pour de bon, et le rhume lui donne la fièvre. Il ne peut même plus bouger, parce qu'un vésicatoire le fait souffrir depuis 16 heures. Ragotte, averti par la chalude, va le revoir et lui pose les mêmes questions.
« Tu n'as besoin de rien ?»«
Non. »«
Faut-il que j'allume le feu ?»«
Ce n'est pas la peine. » »«
Mais, ajoute Ragotte, il dit ça bien doucement. Il ne se fâche pas et il ne se tourne plus exprès de l'autre côté. »
Gloriette y monte. « Un vésicatoire, Paul, se garde 8 heures au plus. Où l'avez-vous pris ?»«
Chez le pharmacien. »«
sans ordonnance. Je n'ai pas vu le médecin. Qui vous l'a posé ?
Le pharmacien.
Sans explication ?
Il m'a dit de coller à la place quand je l'ôterai du papier sur de l'huile.
Avez-vous du papier ?
Le Paul montre un vieux papier de soie qui enveloppait des bougies.
Et de l'huile ?
Je n'en ai pas.
Qui vous enlèvera votre vésicatoire ?
Moi. Oui, vous, comme un pauvre abandonné, au risque d'une blessure.
Écoutez, Paul, on essaiera de l'ôter légèrement, puis on mettra un cataplasme de farine de lin dont la toile aura bouilli, et on percera la peau ensuite. Nous allons vous soigner, Ragotte et moi.
Je vais chercher Ragotte.
Paul répond par un grognement.
Paul, laissez-vous soigner par Ragotte. Il ne faut plus être fâché. Elle a ses travers, comme toutes les vieilles mamans. Mais vous êtes le seul garçon qui lui reste, et elle vous aime de tout son cœur. Vous ne devez pas lui faire plus longtemps de la peine. Je la ramènerai avec moi.
Je veux bien, dit Paul.
Il le souffle d'un râle plutôt qu'il ne le dit à cause de son rhume. Gloriette voit remuer le drap sur la poitrine. Il pleure. C'est d'émotion ou le vésicatoire tire trop. Le Paul laisse traîner au bord de sa cheminée toute une histoire d'amour en carte postale. Sur l'une d'elles, Ragotte lirait, si elle savait lire, et Gloriette, si elle était curieuse. Trouvez-en donc une plus jolie que celle-là, et on dit que je lui ressemble. Sur une autre, je t'aime autant de loin que de près. Sur celle-ci, une petite femme à sa toilette n'est vêtue que de ses bas et de sa chemise transparente. On voit le bout des seins et on devine le reste. L'expéditrice a crayonné au pied de la belle « Admire et comprend ». Sur celle-là s'épanouit une rose jaune et, sous le nom de cette rose que l'imprimeur appelle « Infidélité », il est écrit à l'encre noire naturelle « On s'en a douté ». Gloriette reparaît, suivie de Ragotte, et lève le vésicatoire.
« La chalut de les arrache d'un seul coup !» dit Ragotte, qui tremble.
« Avec la peau.
Ah, dame, viens ce qui vient !»«
Je ne vous ai pas fait mal, » dit Gloriette.
« Non, madame, je n'ai rien senti.
Ragotte restera près de vous. »
« oh madame, dit tout bas Ragotte, les mains jointes, que vous me rendez donc service. Il y a un mois que je ne dormais plus. »
Elle s'installe chez le Paul, il ne dit rien et elle parle trop.
« Oh, que ça doit cuire un vésicatoire! Tu en as du courage, moi je ne pourrais pas le supporter, je crierai. »
Paul va perdre patience, lui dire de se taire ou sauter à bas du lit et la mettre à la porte. Mais il n'a plus d'humeur.
« Il se rend, » dit Ragotte. « Je savais bien qu'il se rendrait à vous, madame Gloriette. Il s'est rendu. Il cause. Il a causé ce matin.
Qu'est-ce qu'il vous disait ?
Il m'a demandé si le lait qui était sur le feu ne tournerait pas. Oh, c'est un bon cœur. Mais une vilaine femme le perd. »
« Quelle femme ?
Je ne veux pas vous parler de cette femme. Je vous manquerai de respect. Enfin, il cause. » Je ne tiens plus à ce qu'il prenne ses repas chez moi. Au contraire, je suis débarrassé. Qu'il mange où ça lui plaît, pourvu qu'il cause. Je tiendrai sa maison propre s'il cause, et je laverai son linge, mais qu'il cause. »
C'est la fin, et tous y trouvent leur compte. Ragotte danserait. Gloriette se félicite d'ôter un vésicatoire sans blémir. Philippe seul resterait longtemps à l'écart si Ragotte n'avait tout à coup une bonne idée. Elle porte ce matin la soupe au Paul et lui demande de ses nouvelles.
« Ça va bien, dit Paul.
Me prêterais-tu 20 sous ?»«
Oh oui, mon garçon.
Pourquoi faire ?
Pour aller à la ville par le train. J'ai de l'argent chez le patron, près de 100 francs, mais j'aime mieux ne pas les réclamer avant la fin du mois.
« Je n'ai pas, dit Ragotte, les 20 sous dans ma poche. Je cours les chercher. » Elle les avait sur elle, mais c'est à ce moment que lui vint son idée. Elle trouve Philippe au jardin. Il a bon cœur lui aussi, comme le Paul. Et il est encore plus têtu. Et il ne le reverrait pas sans un prétexte.
« Le Paul a besoin de 20 sous, » dit Ragotte. « Ça ne se refuse pas, porte-les lui donc. »« Tu ne peux pas les porter toi-même.
Est-ce que j'ai le temps? Prends-le.
Non, la dame m'appelle. Il faut que je monte tout de suite. Porte les 20 sous au garçon. Le train passe à 9h30. Ça presse, elle va vite.
Philippe, mal gracieux et ému, se dépêche d'y aller.
Je montais, dit Ragotte à Gloriette. Vous ne m'appeliez pas.
Ce sera pour une autre fois. N'ayez jamais peur de me déranger. Ça me fait tant plaisir de vous être utile à quelque chose.
Le Paul reviendra-t-il prendre ses repas chez Ragotte? Personne n'y compte plus. Il revient tout seul un jour que sa chemise est mouillée et que son feu ne marche pas. Il entre chez son père et sa mère, qui ne disent rien de peur de le faire sauver, et il s'assied en bougonnant le dos à la cheminée où pétille un fagot. Comme c'est l'heure de manger, Ragotte pousse devant lui sur la petite table une assiette, un verre, le pain et le plat qui fument. Le Paul se sert d'abord de loin, puis il s'approche un peu.